Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Il fait chaud, il fait beau de nouveau encore. On a chanté tout à l'heure un rayon de soleil en plein cœur. Et voilà, c'est ce que nous avons ici tout le temps. Grâce à Dieu, parce que nous levons les yeux vers les montagnes d'où nous vient le secours. Amen. Alors que le monde s'enfonce dans... Enfin, vous savez bien quoi. Eh bien, nous élevons nos cœurs volontairement vers la face de Dieu. Amen.
Amen.
Et alors, il éclaire nos visages et rend nos cœurs heureux, contents. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez appris, c'est Jésus qui parle, hein, vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Que Dieu ajoute sa bénédiction à sa parole ce matin. Je ne vais pas vous parler par doctrine ce matin. Je vais vous parler différemment. Mais... Parce que ne croyez pas que seule la Bible peut nous apporter la connaissance. Dieu, dans son amour et dans sa façon de nous aimer, parce que c'est ça, eh bien, nous apprend beaucoup de choses. Si seulement on veut bien ouvrir les yeux, ouvrir le cœur pour voir, pour comprendre, observer. La question, c'est comment Dieu aime-t-il ? Comment Dieu aime-t-il ? Puisqu'il nous est dit qu'il faut que nous soyons parfaits comme il est parfait. Comment Dieu aime-t-il ? Puisqu'il nous est dit que Dieu est amour. Ah, voilà une question qu'elle est bonne. Son amour n'est pas un état émotionnel. Il faut penser à ça, sérieusement. Ça vous aidera dans vos relations avec lui et aussi avec les autres, et aussi avec vous-même. Avec ceux que Dieu aime aussi et qui parfois vous font du tort. Il les aime aussi. Ils vous font du tort. Dieu a tant aimé le monde. Voilà. Parce que c'est émotionnel. Un amour passionnel, émotionnel, cache souvent un ensemble d'aliénation. Alors, voilà encore, qu'est-ce que ça veut dire « aliéné » ? Ça fait pas tellement longtemps que « aliéné », un aliéné, c'est quelqu'un qu'on met, n'est-ce pas, dans un hôpital psychiatrique. Mais ça, au départ, c'est pas ça le mot. Un amour passionnel, un état passionnel, aliène, c'est-à-dire qu'il transmet à l'autre un bien ou un droit. En quelque sorte, celui ou celle qui aime de cette façon, perd un droit et un bien naturel. Voilà pourquoi il y a tant de chansons qui sont faites sur « L'amour fait souffrir ». C'est émotionnel. Or, il n'est absolument pas du tout dans la nature de Dieu de perdre quoi que ce soit. Il ne perd rien de ce qui est à lui. Et il ne perd aucun de ses droits. Jamais. Il a tous les droits. Et nous l'aimons pour ça. Et il faut faire fi des émotions et du sentimentalisme. Ou alors, du moins, en tout cas, il faut sanctifier nos émotions et nos sentiments. C'est ça que beaucoup de chrétiens ont de la peine à comprendre. Ils ont de la peine à comprendre cela. Souvent ils disent, mais pourquoi ceci m'arrive-t-il à moi? Dieu a tous les droits. N'oubliez pas ça. Mais pourquoi cet être cher est-il décédé si tôt? Je me rappelle, ma mère avait mis sur la tombe de mon père, pourquoi si tôt? C'est vrai que mon père est mort à l'âge de 49 ans. C'est dramatique. Pourquoi si tôt? Pourquoi si jeune? Dieu a tous les droits. Nous sommes ses sujets, il est notre roi. Nous lui reconnaissons ce pouvoir d'avoir tous les droits. Son amour ne lui ôte pas son droit de faire ce qu'il veut. Ça, c'est pas de la nourriture pour bébé, hein. Et ça va plus loin encore, mes frères et sœurs. Un amour émotionnel, ça cache souvent des blocages intérieurs qui sont des sources de dépendance et de manipulation affective. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils vont pouvoir manipuler Dieu avec des bons sentiments en priant, mais Seigneur, tu vois cette souffrance et tout. Combien de couples n'ont pas un amour semblable à l'amour de Dieu pour leurs conjoints, pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leurs amis, pour leurs frères et sœurs, pour les ennemis, pour tout ce que vous voulez. Dans Romains 13, 8, il nous est dit « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. » Oui, mais comment? À la façon de Dieu ou à la façon du monde? Vous avez des gens qui vous demandent de les aimer, ça vous bouffe. Alors oui, l'amour est un devoir et non un état émotionnel. Aime ton prochain, c'est un devoir. Tu ne dois, c'est simple, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Vous devez, c'est un devoir de vous aimer les uns les autres. En dehors des sentiments, en dehors des états émotionnels. Ça ne doit pas être émotionnel et sentimental, c'est un devoir, vous devez aimer. Alors, c'est quoi l'amour? Comment on aime? À la façon de Dieu, c'est comment? Pour Dieu, l'amour, c'est sa nature. C'est naturel. C'est donc un devoir naturel. Pour nous, nous avons pris des mauvais plis à cause du péché. Alors, nous devons convertir notre amour. Cet amour, pour les siens, l'amour de Dieu pour les siens, il est naturel. Et dans notre progression, puisque nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés de nouveau, et puis nous progressons de grâce en grâce, de gloire en gloire, d'intelligence en intelligence, de révélation en révélation, et bien dans notre progression, dans la sanctification, notre but est de pouvoir aimer comme Dieu aime. Naturellement, comme lui, il aime naturellement. Mais selon lui, pas selon nous. Selon notre chair, pas du tout. L'autre jour, je suis allé à Toulouse, chez Acutis, pour acheter de nouvelles lunettes. Et sur le mur de cette boutique, c'est très grand, hein, il y a des proverbes qui sont écrits. Et des proverbes, des pensées, si vous voulez. Et il y avait une des phrases m'a plu, c'était écrit: je porte souvent les lunettes de mon épouse car elle désire que j'aie le même point de vue qu'elle. J'ai repensé à cette phrase sur le chemin du retour, il y a à peu près 2 heures de route, donc j'ai eu le temps de penser, hein. Et c'est là que m'est venue l'inspiration pour ce message d'aujourd'hui. Dieu désire que nous portions ses lunettes, car il désire que nous ayons le même point de vue que lui. Tant que notre amour est passionnel, il est charnel. Or Dieu, quand c'est charnel, il y a un attachement. Non seulement on est attaché, mais on veut que les autres nous soient attachés. Et on souffre s'il y a un détachement. Or, Dieu est attaché à quoi? À rien. Comment ça, Michel, à rien? Mais non, puisque tout est à lui, de toute façon, il ne va rien perdre. Vous voyez? Ah, ça fait réfléchir. Mes frères et sœurs, en ayant un amour détaché, beaucoup de gens disent « Oh, l'amour doit être désintéressé » parce qu'ils pensent toujours à l'argent. On n'aime pas les gens pour leur argent. Non, mais attendez, c'est plus que ça. C'est plus que désintéressé, c'est détaché. En ayant un amour détaché, nous pouvons jouer notre rôle en étant dans l'abandon et dans le plaisir. Parce qu'on n'a peur de rien. Sans ce détachement, on éprouve les besoins caractéristiques de la vie de tous les jours et de monsieur et madame tout le monde. Et ça nous emmène à quoi? Très souvent, ça nous emmène à ressentir du désarroi, voire du désespoir. Dieu est libre parce qu'il est éternel. Et nous pouvons être libres parce que nous aussi, nous sommes éternels. Et il faudrait en prendre conscience. Libre, voilà un mot. On a un petit chant qui dit « Je suis libre du péché, je suis libre de la mort, je suis libre, Jésus m'a délivré. » Très bien, je suis libre. Ça veut dire quoi être libre? C'est très joli. Mais ça veut dire quoi le mot libre? C'est un mot abstrait, hein, libre. Ah oui, c'est un mot abstrait. Nous voilà bien avancés. Ça veut dire quoi, abstrait? Si on sait ce que signifie le mot abstrait, on peut commencer à comprendre ce que le mot libre signifie. Pas avant. Alors, accrochez-vous. Connaître l'abstrait, c'est savoir que la connaissance et le langage peuvent exister indépendamment l'un de l'autre. C'est pas de moi. C'est d'un homme qui s'appelle Carlos Castaneda. C'est un anthropologue américain qui a écrit beaucoup de livres qui sont adoré par certains et controversé par d'autres, comme toujours. Voilà. Mais cette phrase-là, moi, je l'aime bien. Je suis d'accord avec lui, là. Le mot libre est abstrait, et avoir la connaissance, c'est-à-dire savoir que la liberté est une chose abstraite, me permet de parler librement, tout en sachant que ce que je connais de la liberté est indépendant de ce que j'en dis. Ça va plus loin. C'est même indépendant. En amour, il nous faut des objectifs abstraits, comme la liberté. Alors dans le monde, ils se servent de la liberté pour pécher. Eh bien, pas nous. Ils ont mal compris qu'est-ce que c'est la liberté, c'est tout. Même si nous ne comprenons pas exactement ce que c'est que la liberté d'être, nous devons comprendre, en tout cas une chose, c'est que nous devons avoir en amour des objectifs qui sont abstraits, comme la liberté est abstraite. Dieu est libre, il n'a pas de besoin concret. Nous, par contre, on en a. Nous pouvons être écrasés par des besoins concrets. Quand on m'a appris que j'avais ce cancer, mon besoin concret, c'était la guérison, la délivrance. Et c'était quelque chose de lourd. La pauvreté est un état qui écrase l'homme quand il est dominé par ses besoins concrets. Et puis on voit Jésus qui vient et puis qui nous dit « Ne vous faites pas de soucis, je donne à manger aux oiseaux, je prendrai soin de vous aussi. » Alors, si on aime vraiment Jésus, si on croit vraiment ce qu'il dit, on lui fait confiance et on est dans le calme et le repos. Et on n'est pas écrasé par le besoin concret. Vous voyez ? La maladie, comme je disais tout à l'heure, c'est un état qui peut écraser l'homme quand l'homme malade est dominé, ou la femme malade est dominée par son besoin concret. Il veut la guérison, il veut la délivrance. Mais c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas être écrasé par ça. Vous voyez, pauvre et malade. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire là-dedans ? On le prie, il n'y a rien qui bouge. Mais a-t-il le devoir de sauver de nous sauver de la pauvreté ? A-t-il le devoir de nous sauver de la maladie ? Tant qu'on pense ainsi, nous faisons Dieu à notre image limitée, alors que le but est justement à l'opposé. C'est à nous de devenir à l'image parfaite de Dieu. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire, mais il faut bien que ça soit dit une fois. Parce que si ce n'est pas dit, ça reste une espèce de flou artistique cauchemardesque et on reste dans sa souffrance seul. Alors que si on a cette compréhension et qu'on accepte cette chose, ce savoir, à ce moment-là, notre vision est différente et elle peut être unie à la vision de ceux qui croient la même chose, c'est-à-dire les chrétiens. Les chrétiens devraient croire comme ça. C'est à nous de devenir à l'image parfaite de Dieu et pas le contraire. Du point de vue de Dieu, c'est pas un souci si je meurs. Ça paraît énorme, mais c'est quand même la réalité. Parce qu'en réalité, je ne peux pas mourir. De son point de vue, avec ses lunettes à lui, Jésus l'a dit, il a dit « Celui qui croit en moi ne mourra jamais ». C'est notre amour attachement qui nous rend malheureux, d'ailleurs tout le monde le dit. C'est ce qui reste, n'est-ce pas ? Ben bien sûr. Je vais avoir bientôt 67 ans et je vous assure, je suis heureux d'être vieux et de devenir de plus en plus vieux. Je ne suis pas du tout attaché à la jeunesse merveilleuse que j'ai eue. Si j'étais attaché à la jeunesse merveilleuse que j'ai eue, mais je serais malheureux parce qu'il y a des tas de choses qui me sont impossibles maintenant. Or, j'ai une promesse. Nous avons une promesse. Nous recevrons un corps glorieux, plus de décrépitude, plus de dégénérescence. Nous serons éternels avec un corps glorieux. C'est mieux que la jeunesse. Non ?
Oui.
Ben oui. Mais il faut y penser, il faut emplir notre pensée, notre conscient de ces réalités. Nous devons penser comme Dieu pense, mettre les lunettes de Dieu pour voir avec son point de vue à lui et non pas avec notre point de vue à nous. Vous allez me dire, c'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile. Jésus a jamais dit que c'était facile. Alors, mon amour pour la vie commence à avoir un autre point de vue si je prends Dieu au mot, vous voyez ? Et je n'ai pas peur de perdre un être cher puisque je sais que je vais le retrouver. En plus, nous qui avons eu la révélation que nous pouvons participer au rachat de nos ancêtres, eh bien, nous sommes encore plus contents parce que nous savons que même ceux qui n'étaient pas convertis sur cette terre, il y a de fortes chances qu'ils reçoivent l'évangile dans le séjour des morts et c'est magnifique. Donc, où est-ce qu'il est mon souci ? Dieu n'a pas de souci du fait que je meure. Et pourquoi est-ce que nous en aurions pour notre propre mort ou pour la mort des autres ? Bien sûr, ça fait de la peine parce qu'on est séparés, mais c'est un tout petit moment. L'amour inconditionnel, c'est la capacité d'aimer au-delà de nos désirs humains qui sont limités et illusoires. C'est illusoire. Cet amour divin est la sagesse qui donne de l'énergie et de la puissance aux hommes et aux femmes de foi. Cet amour divin. C'est pourquoi c'est l'amour qui est le plus grand. C'est pourquoi c'est l'amour qui doit être mis tout en haut.
mais pas l'amour comme le monde donne, pas l'amour qu'on a eu l'habitude d'avoir, même en tant que chrétien, cette espèce d'amour dégoulinant, de bons sentiments, mais qui très souvent rend malheureux. Cet amour à la façon de Dieu me permet d'avoir une compréhension large de la condition mortelle dans laquelle je suis, dans laquelle vous êtes. Et cette compréhension me permet l'empathie, c'est-à-dire une qualité d'émotion enrichie par la compréhension, plus seulement de la compassion. Je ne m'apitoie plus sur mon sort, ni sur le sort des autres. J'ai une force intelligente, celle de comprendre la condition humaine, qui est une condition mortelle. Et cette intelligence vient de Dieu. Je ne vis plus dans l'illusion. Je ne m'attache pas. Bien sûr que je suis attaché à vous, bien sûr que je vous aime et que je suis attaché à vous, mais c'est plus numéro un dans ma vie. Vous voyez, quand on a Dieu vraiment numéro un dans notre vie, mais tout ce qui est autour, ça fait partie de Dieu aussi, c'est éternel aussi, mais pas dans cette condition ici, après. Comment aime-t-on dans le monde ? Ben, à la façon humaine. Comment est-ce qu'on aime ? Eh bien, on cherche à aimer, à être aimé, à se faire aimer. Ça, c'est l'attitude ordinaire. Ordinaire. Jésus dit, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire quand vous aimez seulement ceux qui vous aiment ? Ça, c'est l'attitude ordinaire. C'est l'attitude du commun des mortels, mes frères et sœurs. Et nous ne sommes pas ça. On n'est pas des moldus. Nous sommes à l'image de Dieu, et Dieu aime. C'est tout. Et sans condition. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu aime ce qu'il veut. Là, c'est là que ça fait drôle. Lisons 1 Corinthiens 1, 25. 1. 25. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Le titre de ma prédication aujourd'hui est La folie de Dieu. Il y a donc de la folie en Dieu. Eh oui! Mais elle est plus sage que la plus grande sagesse des hommes, mes frères et sœurs. Par exemple, c'est pourquoi, après avoir interdit le meurtre, il commande à Abraham, son serviteur, de tuer son fils Isaac. La folie. C'est pourquoi, par amour, il se fait un corps semblable au nôtre et il meurt d'amour pour nous. C'est de la folie. Pas seulement pour nous qui l'aimons, mais même pour les autres. Pour ceux qui blasphèment, pour ceux qui l'insultent, pour tout le monde. C'est de la folie. Il y a de la folie en Dieu. Mais elle est plus sage que la plus grande des sagesses humaines. Dieu aime ce qu'il veut. Et il se sert de sa folie contrôlée pour ne pas s'attacher à ce qu'il aime. Je dis ça par rapport au fait que Dieu ne guérit pas tous les malades. Que nous guéririons si nous étions Dieu. Combien de fois j'ai dit ça? Combien de fois les chrétiens le disent? Si j'étais Dieu, je le guérirais. Je ne délivre pas, Dieu ne délivre pas les siens de tous les tourments et les tracas et les persécutions et les horreurs qui peuvent leur arriver. Alors que si moi j'étais Dieu, je le ferais. Combien de fois j'ai dit ça? Vous l'avez jamais dit ça? Bien sûr. Il aime ce qu'il veut et il nous a choisis et il nous aime. Quoi qu'il nous arrive, soyez-en bien assurés, il vous aime. Et son amour n'a rien de dégoulinant à la façon mielleuse des êtres humains. La foi, c'est croire cela au sein même de la fournaise. Alors vous voyez, pour notre vie ici-bas, c'est bien plus essentiel de suivre intensément, avec amour, notre chemin qui est Jésus, que de chercher à être aimé des gens. Quand on regarde avec les lunettes de Dieu, on aime, point. Point, point final, on aime, point. Mes frères et sœurs, tout ce que vous aimez, tout ce que vous aimez, tout ça c'est bien. Mais souvenez-vous que de toute façon, dans votre existence mortelle, tout commence par vous et tout finira par vous. Et c'est juste une parenthèse durant laquelle nous apprenons à aimer comme Dieu, à être parfait comme Dieu est parfait. Alors, occupez-vous d'aimer comme Dieu aime, et je vous assure, vous souffrirez moins. Il faut s'exercer à ça. Il faut s'exercer à ça. Comment Dieu aime-t-il ? Inconditionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment devons-nous aimer ? Inconditionnellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Devons-nous aimer notre épouse comme nos enfants, comme notre patron, comme nos ennemis ? Non, Dieu ne fait pas ça. Il aime ses ennemis, mais il n'aime pas ses ennemis comme son épouse. Il nous faut aimer à la façon de Dieu. Par exemple, par amour, il dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Il vous aime, si vous arrive un pépin, un problème, ça peut être un châtiment de Dieu parce que Dieu vous aime, vous avez fait une bêtise, il vous tape sur les fesses pour vous remettre dans le droit chemin, parce qu'il vous aime. Mais pas avec les autres. Les autres, il ne les châtie pas. Et les problèmes qu'ils ont, les autres, c'est qu'ils subissent simplement les conséquences de leur acte. C'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre quand il dit « Mais je fais lever le soleil sur les bons et sur les méchants, et tomber la pluie sur les justes comme sur les injustes. » C'est-à-dire qu'il y a des lois qui ont été faites par amour pour tous. Mais nous, il nous prend en particulier parce qu'il nous aime, alors en plus, il nous châtie. Eux, c'est pas, Dieu n'est pas en train de les châtier. Beaucoup de chrétiens ont dit, voilà, la main de Dieu a foudroyé les gens et il a envoyé le sida. Mais c'est faux. C'est simplement la conséquence d'un dérèglement. C'est comme par exemple un alcoolique qui boit, qui boit, qui boit, qui boit. C'est pas Dieu qui le châtie en lui envoyant une cirrhose du foie. C'est pas vrai. C'est une conséquence, c'est pas Dieu qui dit « Bon, maintenant c'est l'heure que je t'envoie une cirrhose du foie. » Pas du tout, c'est simplement une conséquence. Dieu ne le châtie pas, il le laisse faire dans son truc. Et il y a des lois, le soleil, la pluie, c'est pour tout le monde. La cirrhose, c'est pour tous ceux qui veulent exagérer. Je sais qu'on peut avoir la cirrhose du foie sans avoir trop bu. Je sais qu'on peut l'avoir pour d'autres raisons. Mais c'est un exemple que je donne pour dire, voilà, tout n'est pas le doigt de vengeur de Dieu ou le doigt qui châtie, n'est-ce pas? Jamais, c'est pas ça, c'est pas si simple. Ça, c'est les petits trucs simples qu'on nous apprend à l'école du dimanche quand on a 7 ans. Maintenant, est-ce que on châtie, puisqu'on doit aimer comme Dieu, est-ce qu'on châtie un adulte de la même manière qu'on châtie un enfant? Non! Bien sûr que non! Donc il y a des mesures, donc il faut être intelligent. L'amour, on doit être intelligent. On ne doit pas être dans l'émotion. Si on est dans l'émotion, on va foutre une tarte à un gamin pour un petit truc. Et après, alors, quand il va faire un gros truc, on va faire quoi? On va le tuer? On ne châtie pas un adulte de la même manière qu'un enfant. Par exemple, un chien qui pisse partout parce qu'il est tout petit. Nous, on vient d'acheter un petit chien, là. Un petit boxer qui s'appelle Severus. Il fait partout. On en trouve partout, c'est mignon. Michou, elle est ravie. Non, mais elle le fait avec plaisir, hein, parce qu'elle sait que ça ne va pas durer longtemps. Mais moi, c'est un peu délicat, j'arrive pas encore. Le pipi, je veux bien, mais le reste. Bon, ben, on ne châtie pas un petit chien qui fait ça. Il est petit, il sait pas, on lui apprend. Vous voyez? C'est tout ça, c'est autrement, c'est différent. C'est à nous d'être intelligents en amour, être intelligents en amour. J'avais dit que c'était un devoir, maintenant je vous dis que ça va être intelligent. Ensuite, on nous dit l'amour rend aveugle, je vous ai dit c'est faux. L'autre jour, vous vous rappelez, je vous ai dit c'est faux, l'amour rend pas aveugle. Vous voyez, aujourd'hui, je ne vous parle pas de doctrine, je vous parle de cœur à cœur. Maintenant, ça ne veut pas dire que la doctrine, c'est pas bien. Les apôtres prêchaient aussi par doctrine, par révélation, ou voilà. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit entier. Le mot, c'est intègre. Il veut qu'on soit intègre. Pourquoi ? Parce qu'il est intègre, lui. Et l'intégrité consiste à vivre en vérité avec soi-même et avec les autres. En particulier, l'intégrité, c'est la capacité de s'engager et de tenir nos engagements. On s'engage. Et pourquoi on se désengagerait ? Parce qu'il y a des problèmes. Ça, c'est pas de l'intégrité. C'est de la trahison. C'est de la félonie. Quand on est intègre et qu'on s'est engagé, on tient son engagement. Ça, c'est l'intégrité. Ça, c'est l'amour intelligent. Être intègre, ce n'est pas être soumis à un ordre établi. Vous voyez que ça a l'air d'être différent. Mais ça fait partie d'un tout. Être intègre, c'est oser vivre et agir en fonction de notre compréhension évolutive de la vérité, c'est-à-dire de la révélation que Jésus donne petit à petit. C'est ça, être intègre. C'est oser vivre et agir en fonction des progrès que nous avons à faire par rapport à ce que Jésus nous enseigne dans notre vie. Alors ça demande du courage, ça demande de l'autonomie aussi, un sens clair de nos propres valeurs. Et ça nous demande d'être libres de l'influence, de l'opinion des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne les écoute pas. Mais on réfléchit. On ne se laisse pas dominer. Cette intégrité génère quoi ? Eh bien, une grande paix intérieure. Ce n'est pas de la propre justice, hein. Ça nous donne une grande paix intérieure parce que nous incarnons ce que nous croyons, ce que nous enseignons. Et nous enseignons ce que nous incarnons par nos actes et nos paroles. Nous l'incarnons. C'est-à-dire que c'est dans notre chair, pour le moment. Mais quand on quittera notre chair, ça existera toujours. Je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est produite avec un homme qui s'appelle Gandhi. Vous connaissez tous Gandhi ? Oui. Gandhi, un jour, vous savez, il recevait des gens qui venaient lui poser des questions, lui demander des conseils. Et un jour, il y a une maman qui est venue avec son fils, qui avait 5 ans, et elle dit, je sais plus comment faire, mais il n'arrête pas de manger du sucre. Est-ce que vous pourriez pas lui dire, parce qu'il vous aime beaucoup, d'arrêter de manger du sucre parce que c'est mauvais pour la santé. Est-ce que vous pourriez pas lui dire ? Et Gandhi regarde le gamin et il dit, revenez dans 15 jours. Bon, la bonne femme est toute contente, elle se dit, va peut-être avoir une révélation, quelque chose. Et quand il revient, elle revient avec son gamin, et puis il s'installe devant Gandhi, et Gandhi regarde le petit garçon et lui dit, il ne faut plus que tu manges de sucre, c'est mauvais pour la santé. Alors la bonne femme, elle dit à Gandhi, tout doucement, sans que son gamin l'entende, mais pourquoi vous m'avez fait attendre 15 jours pour lui dire ça ? Vous auriez pu lui dire tout de suite ? Et Gandhi a dit, non, je ne pouvais pas, parce qu'il y a 15 jours, je me goinfrais de sucre. Vous voyez, l'intégrité en amour,
c'est la qualité à atteindre. L'intégrité en amour, c'est la qualité à atteindre. Il faut qu'on soit un bloc monolithique, mais suffisamment souple pour pouvoir faire avec flexibilité tout ce qu'on a à faire. Ah, ça demande une sacrée gymnastique. Être à la fois un bloc monolithique et puis être souple.
Eh oui.
Sans intégrité, votre chemin n'est pas celui de Jésus. Parce que votre chemin n'est pas celui du cœur, n'est pas celui de l'amour, du vrai amour. Vous croyez que c'est par amour pour Jésus que vous avez manqué d'intégrité envers le serment que vous avez fait? Ben non, vous avez tort. Alors voilà de quoi méditer, n'est-ce pas? Voilà de quoi méditer. Mais c'est pour ça qu'on se réunit quand on vient pour écouter ce que nous appelons la parole de Dieu, le conseil de Dieu dans son Église rétablie. C'est pour pouvoir nous parfaire, c'est-à-dire faire des progrès. Alors là, on a de quoi faire, je crois, avec un tel enseignement ce matin, et je prie que vous et moi, nous puissions aller de l'avant dans ce sens-là, et que nous ne nous laissions pas aller à aimer simplement comme les gens de ce monde, mais à aimer à la façon de Dieu, et qui est parfait. Et c'est à cela que nous tendons, c'est d'être parfait comme il est parfait. Nous nous réjouissons parce qu'un jour cela sera, mais en attendant, c'est un but à atteindre. Amen. Donc ne soyez pas découragés si vous êtes encore loin du but dont vous avez conscience. Ne soyez pas découragés, au contraire. Dites-vous, c'est chouette, j'ai du boulot, je vais pouvoir m'y mettre, on va retrousser les manches, puis on va y aller. C'est super, puis Dieu va m'aider. Oui ou non? Et puis, le temps qui nous reste à vivre, eh ben, on va faire des progrès, marcher de progrès en progrès, puis on fera une bêtise, et puis on en parlera avec Dieu, et puis on lui dira, puis il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous justifier, et puis nous relever, nous aider à repartir sur le droit chemin. Amen. Donc ne soyez jamais découragés. Toutes les paroles de Jésus sont des paroles d'absolu. Et il nous les met devant nous, il dit, soyez parfaits comme Dieu est parfait. Bam, prends ça. Voilà, c'est culpabilisant au possible. Oui, mais il y a tout le reste. Dieu est amour. Et son amour, voilà, nous avons vu un peu ce qu'il est ce matin. Et nous savons que, eh bien, cet amour est magnifique pour nous. Il nous a choisis, il ne rejettera pas. Amen. Dieu soit béni. Merci Jésus de donner à chacun l'intelligence pour bien saisir et comprendre ces choses, afin que lors de ton retour, eh bien, nous soyons tous prêts, que nous ne soyons pas dans l'illusion d'un espèce d'amour religieux dégoulinant, mais que nous soyons vraiment, vraiment dans le véritable amour, tel que tu l'entends. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen. Amen.